Il vient d'être 17h à Niamey, le journal en français du studio Kalangou de ce mercredi 17 novembre 2021. C'est avec Michel Deji. Les titres de cette édition, l'élimination des violences faites aux filles et la promotion de leurs droits est au centre du 3e sommet des filles africaines à Niamey. Nous y reviendrons dans ce journal. Le Niger enregistre une nouvelle vague de COVID-19. Le nombre des cas positifs repart à la hausse selon le directeur du Centre d'études de recherche médicale et sanitaire CERMES qui attire l'attention des populations sur le respect des mesures barrières. Au Niger, les enfants ne sont pas encore concernés par la vaccination contre la COVID-19. On en parle dans la partie magazine. Bonsoir et bienvenue à tous. Cela dit, le 3e sommet des filles africaines se tient du 16 au 18 novembre à Niamey. L'élimination des pratiques néfastes et la promotion de leurs droits est au centre des échanges qui se déroulent actuellement au centre de conférence Mahatma Gandhi. Où en est le Niger par rapport à la réalisation de ces droits? Plus de détails avec Raïla Toussoumana.
C'est la Commission de l'Union africaine qui a initié cette activité en 2015 et organise depuis tous les 3 ans un sommet de jeunes filles africaines. L'objectif est d'accélérer la réalisation des droits des filles, notamment en éliminant certaines pratiques traditionnelles dites néfastes. C'est dans ce cadre qu'après la Zambie et le Ghana, le Niger accueille environ 2000 jeunes filles venues d'une cinquantaine de pays membres de l'Union africaine. L'accent est mis cette année sur les mutilations génitales féminines, le mariage d'enfants, la scolarisation de la jeune fille et l'accès aux soins en matière de santé de la reproduction. D'ores et déjà, le Niger a adopté et ratifié des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux pour réprimer ces actes de mutilation génitale féminine, comme le stipule la Constitution de 2010 d'une part. Et d'autre part, pour mettre fin au mariage des enfants, le Niger a adopté en 2019 un plan pour la période de 2019-2021.
En décembre 2017, l'État du Niger a adopté un décret portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Et depuis la signature de ce texte, la situation de la scolarisation des filles s'est améliorée, estime Mariam Mamoudou Choubo, directrice de programme à l'ONG Femmes Action et Développement. Elle est au micro d'Adam Dawaki.
On pourrait dire qu'il y a une certaine amélioration de la scolarisation des filles. J'ai eu vent les mois passés de quelques écoles pilotes dans lesquelles on construisait des internats par le nouveau régime en place et que pour cette rentrée-là, ces écoles devaient être opérationnelles. C'est un témoignage de la directrice actuellement nationale de la scolarisation des filles. Donc, des choses sont en train d'être faites et c'est positif. À l'époque, lorsque la fille elle tombait enceinte, quelle que soit son excellence, elle ne pouvait pas regagner les bancs de l'école. Mais aujourd'hui, grâce à ce décret, une opportunité leur est offerte. Et je ne pense pas qu'il y ait un directeur d'établissement qui puisse refuser cela, du moins qu'il y a le décret. Même s'il le refuse, c'est que la personne concernée ou ses proches peuvent porter la situation auprès de qui ça se doit pour que la fille regagne l'école. C'est son plein droit.
Depuis quelques semaines, le Niger enregistre de plus en plus de cas de COVID-19. Il s'agit d'une nouvelle vague du coronavirus qui pourrait s'expliquer par certains facteurs, selon le directeur du Centre d'études de recherche médicale et sanitaire CERMES, Dr Ronan Jambou. Il est au micro d'Anissé Karim.
On voit une augmentation effectivement des cas positifs. Visiblement, on est devant une nouvelle vague qui est en train d'arriver sur le pays, sans doute liée à la saison un peu plus fraîche, au fait que les gens sont un peu plus regroupés à la maison, enfin, beaucoup de facteurs le font. Et puis aussi, sans doute, parce qu'ils ont quand même largement oublié les mesures barrières. C'est important de rappeler les mesures barrières, on est devant une nouvelle vague, et puis surtout que tout le monde se fasse vacciner. Comme ça, il y aura, même s'il y a encore de la transmission, en tout cas au moins, il n'y aura pas de cas graves et il n'y aura pas de surcharge des hôpitaux. Il n'y aura pas de décès. Donc, il y a des millions de doses actuellement présentes au Niger qui ne sont pas utilisées, parce qu'il faut sensibiliser la population pour les utiliser. Il y a des stocks qui arrivent la date de péremption parce que les gens ne viennent pas se faire vacciner. Il faut comprendre que le nombre de cas que l'on détecte, c'est ceux qu'on cherche. Peut-être qu'on voit plus de cas à Agadez parce que vous avez des bons laboratoires. Vous êtes bien équipés à Agadez. Vous avez des appareils de PCR, vous avez les mêmes machines que nous au CERMES. Donc c'est vrai que ça augmente. Ça augmente sans doute dans tout le pays. Et je suis sûr que dans les autres villes, ça augmente aussi.
Cela fait un an que les habitants de la commune rurale de Dingazibanda, dans le département de Wallam, sont sans électricité. Des individus armés ont détruit le réseau, selon le maire. Jusqu'à ce jour, les autorités communales multiplient des plaidoyers auprès de l'État pour solutionner le problème, a indiqué Souleysman Hima, le maire de Dingazi, au micro de Hassan Momouni.
L'ANGELEC n'a pas encore donné une réponse par rapport à notre doléance. Presque un an, le groupe électrogène est fermé, faute d'argent. Les gens ont payé leur frigo, les gens ont payé tout ce qui est vraiment nécessaire pour l'électricité, pour travailler. Mais malheureusement, l'insécurité fait du faux que jusque-là, on est toujours dans l'obscurité. Nos problèmes de produits qui doivent être conservés, maintenant, au lieu de les conserver au niveau de Dingazi, il faut qu'on les amène ailleurs. Au besoin, il faut qu'on se déplace pour aller prendre et venir faire la vaccination des enfants et des femmes enceintes. On a des fils du tiroir qui ont fait les études sur l'électricité. Nous sommes en train de faire un plaidoyer auprès de l'État. S'il ne peut pas nous envoyer un agent, moins de prendre parmi les natifs de notre commune et les former, au moins eux, ils vont rester.
Dans la région de Tawa, au moins 25 personnes, toutes des jeunes membres d'une milice d'autodéfense de Bakourat, département du Tilian, ont été tuées hier dans une attaque qui a visé leur base non de la frontière avec le Mali. Des sources non officielles jointes ce matin par le studio Kalango indiquent que cette incursion a été menée par des individus armés non identifiés à bord de plusieurs motos accompagnés par des véhicules. L'enterrement des personnes tuées s'est déroulé ce matin dans la localité de Bakourat, précise les mêmes sources. Plusieurs infrastructures sanitaires de la commune rurale de Tebaram, région de Tawa, ont été incendiées hier dans l'après-midi par un groupe d'individus armés non étatiques. Aucune victime n'est à déplorer. Néanmoins, les dégâts sont importants selon les précisions du maire Bouri Nagari, joint au téléphone par Tanan Foudaï Hamed.
Effectivement, il y a eu des incidents. Ils nous ont brûlé la mairie, ils nous ont brûlé le réservoir de gasoil, pour laisser les documents. Toute la documentation a été brûlée au niveau de la mairie. Ils nous ont incendié aussi les deux ambulances, une ambulance Colombo 9 que nous venons de recevoir de la main de la SNE et encore une ancienne ambulance. Toutes les deux ambulances ont été donc incinérées. C'est des bandits armés qui sont en train de sillonner un peu partout dans la zone. Pour le moment, vraiment, la population, chacun est en train de faire son activité sans problème.
De nombreux enfants fuient leur village des environs d'Ilela au Nigeria pour se réfugier au niveau du village de Masalata situé à Benin-Konni, le département frontalier. Selon le chef du village, c'est suite à une attaque de bandits armés dans la nuit du dimanche qui a causé la mort de 12 personnes. Ibrahim Dagale, chef de village de Masalata, explique au micro de notre correspondant Asuman Axika.
J'ai vu des personnes ayant subi ces exactions qui sont venues se réfugier ici. Dans la grande majorité, c'est des enfants. Ils se sont réfugiés chez des parents qui vivent ici. Étant donné que là où se passent des tueries, il est évident que dès que l'on a une issue de sortie, il va de soi de chercher à s'enfuir. C'est des voisins entre Kalamalum, Wadata et Rumji. Je crois que certains même ont commencé à retourner dans leur village. Ici même, dans mon foyer, il y a une femme et 5 enfants. Nous ne souhaitons pas que de tels actes nous arrivent. Nous prions le Tout-Puissant de nous préserver. Nous appelons la population à chaque fois qu'elle voit un étranger de vite informer qui de droit. J'en appelle à la bonne collaboration de tous. Un étranger que l'on ne connaît pas, avant de lui donner toute confiance, il faut chercher d'abord à savoir l'activité qu'il exerce.
À Agadez, les forces de défense et de sécurité, les influenceurs, les acteurs de la société civile et les femmes leaders ont été formés en début de semaine sur les droits et la protection des migrants, une initiative de l'Association pour la promotion et le développement artisanal et culturel, PRODAC, qui explique les raisons de cette rencontre. Adam Wali, président de l'association.
La thématique, elle porte essentiellement sur les droits des migrants et leur protection. Il est important que tous ces beaux mondes de notre groupe cible sachent les droits donc des migrants et qu'ils puissent en tout cas appeler ou bien agir de façon à ce que ces droits-là, une fois qu'ils sont su, qu'ils sont connus, qu'ils soient protégés par tout le monde. Les choix de ces acteurs, parce que c'est des acteurs qui sont importants dans les maillons donc de la migration. Et quand vous prenez les FDS, ils sont en contact avec donc les migrants quand ils arrivent directement au niveau donc du poste de police et autres donc points de contrôle. Quand vous prenez par exemple les femmes leaders, elles sont donc dans des associations qui font des sensibilisations sur les droits des migrants et autres. Donc il est important qu'ils aient des connaissances sur ça pour pouvoir donc prendre ses connaissances et les mettre en application les jours où ils vont faire leur sensibilisation. Les web influenceurs, ils sont influents sur le web. Dès qu'ils prennent un passage ou une séquence de cette formation, ils publient, tout le monde donc va voir et c'est tout le monde qui sera informé.
Anesthésiste de formation et mère de 3 enfants, Leïla Halidou a choisi la peinture pour extérioriser son ressenti de l'environnement médical. Leïla Halidou explique son travail au micro d'Ousmane Mamoudou.
Être anesthésiste, infirmier, médecin, c'est un travail difficile qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à consacrer aux patients. Mon art me permet de décharger toute cette énergie qu'on accumule au cours de la journée. Il y a des gens qui crient, qui sont malades, il faut être là, il faut écouter. C'est important pour moi de m'exprimer ainsi par mon art. J'ai commencé il y a tout juste 1 an. Honnêtement, ce n'est pas une chose facile de concilier le travail et ma passion. Alors moi, mon style, c'est des motifs exagérés de différentes formes, mais qui s'inspirent de la culture touareg. Je pense que j'ai réussi, avec le soutien de mon époux, de mes parents, à construire tout ça. Il y a des personnes qui disent qu'ils veulent des commandes spéciales. Ils veulent quelque chose qui ressemble à tel, tel, tel. Et quand j'avais essayé, j'ai commencé vraiment à perdre le goût de ce que je fais. Et si une personne s'intéresse à ce que je fais, elle peut l'acheter. Et bien sûr, en art, d'autres aiment. D'autres n'aiment pas.
Dans la prévention contre la pandémie de COVID-19, le Niger a organisé 3 campagnes massives de vaccination dans tout le pays. Cependant, les plus jeunes ne sont pas encore concernés ici au Niger, souligne le responsable du service d'aide médicale d'urgence, Dr Souleymane Karayi, responsable du SAMI, est interrogé par Habib Garba.
Très rare d'entendre dire qu'on va amener des enfants se faire vacciner. Est-ce qu'on peut dire que les enfants ne sont pas concernés par la vaccination de la COVID-19?
Les enfants de bas âge ne sont pas concernés par la campagne de vaccination. Les autorités ont bien expliqué à chaque fois que cette vaccination est ciblée. D'abord parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que les autres pays en termes de doses de vaccins, etc. Et que même scientifiquement, même dans les pays où il y a beaucoup plus de doses de vaccins, c'est un ciblage très précis qui a été réalisé et prenant en compte des problèmes comme des problèmes de santé particuliers, que ces affections-là peuvent favoriser l'installation ou bien enfin, la survenue de cas graves de COVID. Donc c'est cette personnes qui ont été ciblées et le ciblage peut être aussi lié non pas aux antécédents mais par exemple à la profession parce qu'il est insensé qu'un agent de santé ne puisse pas être vacciné parce qu'il faut comprendre la vaccination et même tout ce qu'on entreprend comme mesure, non pas comme une protection forcément pour soi mais également une protection pour les autres de prévention.
Les vaccins étant préventifs, est-ce qu'on peut penser un jour à vacciner aussi les enfants genre de 0 à 10 ans, de 0 à 5 ans, comme on le fait pour les autres maladies aussi?
Bon, là, il s'agit d'une affection particulière, c'est-à-dire qu'il n'a pas été démontré une plus grande efficacité, peut-être à vacciner des enfants de très bas âge. En tout cas, moi, je ne sais pas quelle sera l'évolution de la politique vaccinale. Et je pense que bien malin serait celui qui va le dire là, maintenant. Toujours est-il que il y a des âges qui sont ciblés et on estime que les enfants ne sont pas censés faire des formes graves de la maladie. Parce que le vaccin, en dehors du fait que ça protège contre la survenue de la maladie, protège également contre la survenue de cas graves. C'est-à-dire que même si par malheur, entre guillemets, on contracte le virus, le vaccin permet de circonscrire l'évolution clinique de telle sorte qu'on va faire juste un rhume banal et ça passe. On ne finit pas en réanimation. C'est ça l'enjeu, d'avoir le moins de cas de réanimation possible.
Merci d'avoir suivi ce journal en français du studio Kalangou. Au revoir.